prospérité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Le Cameroun est sous le choc après le déraillement vendredi du train qui assurait la liaison Yaoundé-Douala. Le dernier bilan encore provisoire fait état de 79 morts et de plus de 550 blessés. En tout cas, après la journée de deuil national décrétée hier par le président Paul Biya, les familles des victimes attendent évidemment des explications sur les causes de cette tragédie. Dans un premier temps, rappelez-vous, les critiques se sont focalisées autour de la décision de rajouter des rames supplémentaires pour augmenter le nombre de passagers. Je vous rappelle que dans la nuit précédant ce drame, un pont s'est effondré sur la route Yaoundé-Douala, un pont qui a donc interrompu toute la circulation sur cet axe routier qui est tout de même l'un des plus fréquentés d'Afrique centrale. Du coup, de nombreux voyageurs se sont rabattus sur le train, d'où la décision prise par la compagnie ferroviaire de rajouter 8 wagons. En tout cas, la Camrail semble relativiser cette mesure. Elle affirme que durant les fêtes de fin d'année, durant les vacances, il n'est pas rare justement d'augmenter le nombre de voitures. Autre polémique qui a également surgi, celle concernant la qualité du système de freinage. En tout cas, pour l'opposition, il n'y a pas de doute. La vétusté des infrastructures de transport est responsable des infrastructures ferroviaires, infrastructures routières. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cette tragédie 4 jours après ce drame? 33 9 693 693 70. Nous allons évidemment vous donner la parole durant les 20 prochaines minutes. Je vous lisais tout à l'heure, en début d'émission, le message Facebook envoyé par Ruben. On a fait le nécessaire pour le contacter. Ruben qui a un témoignage et qui, depuis maintenant 4 jours, est à la recherche de son frère qui était dans le train. Bonjour Ruben.
Oui, bonjour.
Merci de nous avoir appelé. Vous êtes à Douala. On vous écoute.
Alors, merci de me passer la parole. 4 jours après l'incident, je suis venu à Ezeka. Je suis toujours sans nouvelles de mon frère. Je suis entré en contact avec lui quelques instants avant qu'il ne rentre dans ce train. Et ayant eu la nouvelle du train par la radio, j'ai décidé de composer son numéro de téléphone. Donc j'appelle, c'est un gendarme qui me répond, m'informant qu'il y a effectivement eu déraillement, mais ne peut pas me donner d'informations et m'invite à me rendre à Ezeka, ce que je fais sur le champ. Donc, je suis arrivé à Ezeka vendredi aux alentours de 19h-20h, accompagné de quelques personnes très braves que je salue. Et nous avons immédiatement procédé aux fouilles dans les hôpitaux, dans les morgues, tout ce qui concernait les lieux où les corps ou les blessés ont été évacués. Les villes comme Pouma, Edea, avant d'arriver, nous n'avons rien trouvé. Sur place, la scène était effroyable. Les images sont impressionnantes. Je vous ai entendu tout à l'heure parler d'un bilan encore non officiel ou je ne sais pas trop quoi de 79 morts. Je veux que le monde entier sache qu'il n'y a pas que 79 morts. De visu, les corps étaient transportés dans des pelleteuses, dans des véhicules, dans des malles arrière. Les corps étaient étendus ça et là. Il n'y a pas que 79 morts. Il y en a bien plus, au moins 200 ou 250.
Alors, on a pu entendre les habitants des Eka remettre en cause ce bilan officiel de 79 morts, un bilan qui n'est pas encore définitif puisque les opérations de secours se poursuivent en ce moment même. Les pompiers pensent d'ailleurs que des corps se trouvent encore dans les wagons endommagés. 4 wagons, je le rappelle, qui ont basculé, qui sont tombés dans un ravin. Il y a encore notamment une des voitures qui est couchée sur le côté dans de l'eau, dans de la boue. Donc, effectivement, le bilan risque de s'alourdir. Mais vous êtes nombreux, effectivement, à remettre en cause le bilan officiel. Il y a une volonté, selon vous, de minimiser l'ampleur de cette catastrophe, Ruben ?
Vous savez, nous sommes au Cameroun où on a l'art de manipuler l'information. Je suis contre cette pratique et je continue et je martèle que ce bilan est minimaliste. Il y a au minimum 200 ou 250 morts, voire plus. Parce que de visu et la façon dont les corps étaient transportés, 70 corps, c'est trop peu. C'est trop peu.
Concernant Ruben, les recherches de votre frère, vous avez donc sillonné, vous nous avez dit, les hôpitaux de la région, vous ne l'avez pas trouvé. Est-ce que vous avez l'impression d'être pris en charge tout de même? Est-ce qu'il y a une cellule psychologique qui vous a contacté? Est-ce que vous êtes aidé ou vous avez l'impression d'être vraiment livré à vous-même?
Alors, Juan, il faudrait que je vous précise qu'à mon arrivée à Ezeka, je me suis tout de suite rendu à la gare Cambrai de ce côté. J'ai assisté à l'enregistrement des passagers conscients qui étaient évacués par des véhicules de transport interurbain. Ils se sont fait enregistrer sur des listes. À mon niveau, j'arrive à Ezeka dans une ville où je ne connais personne. Nous avons été livrés à nous-mêmes. Nous avons passé 3 jours endormis dans le véhicule qui nous a transportés devant la gare. Aucune cellule psychologique ne nous a fait asseoir, ne nous a écoutés. Un numéro soi-disant vert a été mis en place. J'ai composé ce numéro plusieurs fois. Je n'ai pas eu de réponse. C'est hier qu'après avoir composé ce numéro qui n'est pas vert, parce que n'ayant plus d'unité de crédit de communication, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils n'ont pas de nouvelles. Effectivement, plusieurs personnes appellent concernant mon frère, mais nous n'avons pas un réel accompagnement psychologique.
En tout cas, cette ligne verte reçoit des centaines d'appels et cette ligne verte a pu traiter des centaines d'appels rien que dans les premières heures qui ont suivi le drame. Vous dites qu'il n'y a pas d'aide psychologique. En tout cas, la compagnie, elle, a mis sur pied 2 cellules de crise, une à Douala, l'autre à Yaoundé, pour accompagner psychologiquement les familles. Est-ce insuffisant? En tout cas, Ruben, vous n'êtes pas le seul. Sur Facebook, René nous dit « Rien n'est fait pour les victimes, pas de cellules de communication, pas de prise en charge psychologique des rescapés et leurs familles, pas de liste de morts identifiées, pas de liste de blessés », nous dit cet auditeur. Ruben, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci vraiment de ce témoignage. Bon courage à vous. On accueille Georges qui nous appelle également de Douala. Bonjour Georges.
Bonjour Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Rappel sur l'actualité.
On vous écoute.
Voilà, avant de donner ma réflexion personnelle, je voudrais encourager vraiment les Camerounais et tous ceux qui nous écoutent du Cameroun à faire un don volontaire de sang, parce qu'il y a des blessés qui risquent de mourir parce qu'il manque de sang dans nos hôpitaux. Donc, si quelqu'un peut avoir l'envie, la volonté, le courage, donner un peu de son sang pour aider un frère, une sœur qui est dans le besoin, ça serait vraiment très encourageant pour cette personne. Et je voudrais saluer vraiment la population des ECA, les Benskimés en premier lieu, qui se sont devenus tous des secouristes pour apporter leur soutien à nos frères qui ont connu ce drame. J'ai eu 2 amis qui ont pris ce train, chacun de son côté. Un s'en est sorti vivant grâce à Dieu, et l'autre que je rends hommage, le père Carlo Girola, c'est un prêtre de la santé italienne qui appartenait à la communauté des pères avériens, qui est décédé. Il n'a pas pu arriver à Douala. Et je rends hommage à cet homme qui était celui qui m'a donné ma première communion, donc je le connaissais très bien. Alors, pour revenir un peu sur les faits, personnellement, mon sentiment est mitigé. Nous sommes tristes et on a prié pour les victimes. Et mon sentiment, c'est celui de la recherche du gain à tous les prix. Parce qu'à mon humble avis, ce qui est arrivé à Ezeka, c'est certes une panne technique, si on peut dire comme ça peut-être, mais davantage le fait que ceux qui ont pris la décision d'ajouter des wagons, peut-être, n'ont pas tenu compte des avis de leurs techniciens qui signalaient sur ces wagons qui ont été ajoutés des pannes. Peut-être qu'ils n'ont pas tenu compte de la réalité des rails qui sont sur ce tronçon d'Ezeka, parce que des informations revenant de là font état que le trafic là-bas est suffisamment endommagé autant pour moi.
Alors, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Alors, peut-être des rumeurs, des informations qu'il reste évidemment à vérifier. Lorsque vous dites, les ingénieurs de la compagnie ferroviaire ont émis des doutes en disant attention, 8 wagons supplémentaires, c'est peut-être beaucoup. Voilà, c'est vrai que ce sont des propos qui reviennent souvent dans certains articles de la presse locale, sur les réseaux sociaux. Reste maintenant évidemment à vérifier cette information. Ce que dit en tout cas Camara, et c'est que il n'est pas rare de rajouter des wagons supplémentaires lorsqu'il y a trop de passagers. C'est le cas pendant les fêtes de fin d'année, c'est le cas également pendant les vacances, et jusqu'à présent, voilà, il n'y a jamais eu de drame, il n'y a jamais eu de tragédie comme celle de vendredi dernier. On va donner la parole, Georges, si vous le permettez, à d'autres auditeurs. Avant, un petit détour quand même sur la page Facebook de l'émission. Elvisus qui nous dit être choqué de savoir que le gouvernement fait tout pour minorer le nombre de morts, et pourtant les populations des ECA et les rescapés témoignent de plusieurs centaines de victimes. Ça revient sans cesse dans vos commentaires. Un auditeur, Ibrahim, se dit étonné que le président Paul Biya ne soit toujours pas allé à Ezeka. Pourtant, hier, effectivement, il y avait une cérémonie à Ezeka. Aucun membre du gouvernement n'avait fait le déplacement. On a fait le déplacement hier. Il n'y avait que les préfets, le préfet, le maire d'Ezeka, un représentant de la compagnie ferroviaire Camra était également sur place. Au standard, Anne est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, Juan, et bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons, Anne.
Alors, d'abord, je vais rendre hommage à toutes les victimes, parce que le Cameroun a connu, a enregistré, en fait, son Black Friday. Parce que, franchement, de ce que j'ai déjà eu à vivre ou à entendre au Cameroun, j'avais jamais vu ou entendu parler de quelque chose d'aussi horrible.
Alors, vous êtes nombreux à qualifier le vendredi dernier comme étant un vendredi noir au Cameroun, puisqu'effectivement il y a eu cette tragédie. Quelques heures plus tôt, il y a donc ce pont qui s'écroule, qui s'effondre à cause de la pluie sur l'axe routier Yaoundé-Douala. Donc ça fait voilà beaucoup de catastrophes qui s'enchaînent.
En même temps, oui. Alors pour revenir à ce qui s'est passé vendredi, d'abord je vais corroborer ce que le premier auditeur a dit. Il n'y a pas eu que 75 ou 79 morts. Et c'est vraiment une insulte à toutes ces familles qui ont perdu des proches de publier et de continuer à dire de tels mensonges. Ils se comptent par centaines. C'était horrible. Ma tante et une amie font partie des personnes qui ont survécu à ce drame. Elles étaient dans un des rares wagons qui se tenait encore debout, mais elles sont encore sous le choc. C'était juste incroyable. Et comme le disait, je sais pas, Ibrahim, il y avait personne pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe, comment faire. Il n'y avait que des pleurs. Donc, tout ce qu'on a à faire face à ça, c'est aller s'occuper de chacun son blessé ou sa victime et de partir de là.
Anne, excusez-moi, le président Paul Biya a demandé l'ouverture d'une enquête. Camaray a annoncé, pour sa part, une enquête technique. Vous attendez concrètement des réponses à toutes ces questions à l'issue de ces deux enquêtes ?
Personnellement, je pense qu'elles n'aboutiront à rien, ces enquêtes. Si on est incapable de nous dire combien de personnes sont réellement décédées, je pense que pour le reste, on nous dira la vérité.
On va voir si Donald, excusez-moi, on va voir si Donald, qui nous appelle de Yaoundé, a les mêmes réticences que vous, le même scepticisme. Donald, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Vous disiez au standard que cette catastrophe, finalement, c'était le résultat de la mauvaise gouvernance dans votre pays.
Ah ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que chez nous, nous n'anticipons rien. Parce que tout est parti, comme on dit chez nous, il ne faut pas regarder là où tu es tombé, mais là où tu as buté, tu t'es buté, ou là où tu as trébuché. Parce que tout part de ces ponts qui s'est écroulé toujours dans le département d'Union et Kélé, c'est-à-dire que c'est dans le même département que Zeka. Alors ce pont, il paraît que depuis quelque temps déjà, les techniciens avaient signalé que ce pont n'était pas bien. Alors on a laissé, et puis voilà. Quand il s'est écroulé, tout le monde s'est jeté sur les rails. Les rails qui sont déjà même pas en très bon état. Alors c'est comme ça que chaque fois, nous subissons. Les dirigeants ne peuvent pas, justement, prendre l'initiative de mettre le paquet sur des infrastructures routières, hospitalières, des infrastructures socio-économiques. qui devrait nous éviter ce genre de cas.
Ouais. En tout cas, je ne sais pas si vous avez entendu le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ce matin sur notre antenne. Il dit « On ne peut pas parler de manquement. Nous sommes parfaitement au courant de la dégradation de certains aspects de la Nationale 3, donc cet axe routier là où s'est effondré donc ce fameux pont. Une Nationale qui a maintenant une trentaine d'années. On ne peut pas nous accuser de ne pas avoir une vision globale de la maintenance de cette route. »
Oui, mais qu'est-ce qu'ils font donc avec toute cette vision globale? Le résultat concret, c'est quoi? Nous avons cette route qui date de plus de 30 ans, avec un trafic incroyable. Alors, nous, on était au courant, et qu'est-ce qu'on a fait? Justement, après cette catastrophe, en deux jours, même pas deux jours, en moins de 48 heures, on a pu faire un pont pour que les gens puissent passer. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'anticiper par l'action. Au lieu de chaque fois réagir après les catastrophes. Les catastrophes, les accidents, ça existe partout. Partout. Même là-bas en Occident, il y a des accidents
bien
de train. Partout dans le monde. Mais chez nous, ici, on a l'impression que c'est programmé. C'est l'impression que c'est programmé. Puisque simplement, on vous dit, voilà, la route, elle n'est pas bonne, à cet endroit, il faut faire quelque chose. On ne fait rien, et puis dès que ça se passe, paf, le lendemain, on fait un pont en 24 heures. Non, c'est pas... Moi, je crois qu'il vaut mieux que les décideurs commencent à anticiper et puis mettent l'accent sur des investissements socio-économiques de développement. Parce que vous allez voir le cas des blessés qui arrivent à Ezeka. Déjà même dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala, les hôpitaux ne sont pas spécialement dotés de plateaux techniques. Quand on évacue des malades à Ezeka, il y en a qui meurent pour qu'on pouvait sauver s'il y avait des premiers soins appropriés.
Et d'ailleurs, l'opposition, le SDF, demande une enquête indépendante, déjà pour évidemment vérifier la qualité de la concession du rail, mais aussi une enquête sur l'absence de système de réponse en cas de catastrophe. Il est inadmissible que les premières ambulances soient arrivées sur le site à 18h30, disait ce matin sur notre antenne l'un des responsables, le vice-président national du SDF. 18h30, les premières ambulances, quand on sait que le déraillement s'est quand même produit à la mi-journée, effectivement, le temps a dû sembler extrêmement long pour les victimes. Merci Donald de nous avoir contacté. Christophe, bonjour.
Bonjour.
Puis-je donner votre nom de famille, Christophe ?
Il n'y a pas de souci.
Je vous présente, puisque vous êtes présenté au standard, Christophe Ampoam. Vous êtes vice-président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun et vous profitez justement de l'émission pour rappeler l'importance, et un auditeur le disait tout à l'heure, l'importance de continuer à donner son sang.
Oui, j'étais justement à le dire parce que nous avons, au niveau du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun, essayé de sensibiliser les confrères et les consoeurs pour qu'ils s'impliquent dans la prise en charge des sinistrés. C'est pour cela qu'on a organisé une participation à la campagne de dons de sang, également de pouvoir faire susciter les dons de sang à partir même de notre clientèle. Également, nous avons essayé de mettre en place un système pour collecter les médicaments et pour les mettre à disposition des sinistrés. C'est comme ça qu'on a lancé une grande souscription dans tout le Cameroun pour pouvoir mettre à disposition tout ce qui est glucosé, soluté massif, anti-inflammatoire et autres produits nécessaires à cela. D'autant plus que nous avons une faiblesse sur le terrain qui est que la carte sanitaire fait en sorte qu'au niveau des ECA, où s'est passé le drame, il n'y a pas d'officier,
tout à fait. C'est vrai que cette ville des Eka, qui est située à un peu plus de 120 km de Yaoundé, n'est pas équipée en termes de logistique, en termes de personnel qualifié pour gérer évidemment un tel drame. Et les blessés sont forcément transportés dans les hôpitaux des villes voisines. Merci Christophe Ampoam de nous avoir appelé. On va terminer avec Paul qui est à Edea. C'est à 60 km des Eka, le lieu de la catastrophe. Bonjour Paul.
Bonjour Juan.
Vous êtes très déçu, vous, par la réaction du gouvernement.
Oui, bien sûr. Pour hier, moi j'étais à Ezeka pour cette journée de commémorative et nous espérions voir l'État représenté au plus haut niveau. Malheureusement, c'est l'absence vraiment criable d'aucun membre du gouvernement. Bon, on espérait même le président de la République qui n'est pas venu. Et ça, je vous assure que ça a encore ajouté un tout petit peu d'amertume et de douleur à toutes ces populations qui sont meurtries par cet accident qui est plutôt terrible. Ouais. Cet accident qui aurait pu être évitable.
Absence du gouvernement hier, effectivement, à Ezeka. Certains s'attendaient même à ce que le président Paul Biya, même s'il n'allait pas sur place, prononce un discours, effectivement, ce discours n'a pas été prononcé hier. Merci à vous tous vraiment de votre fidélité, de l'intérêt que vous avez porté à cette émission. On a reçu beaucoup, beaucoup d'appels. On continuera évidemment dans les prochains jours à revenir sur cette tragédie. Demain, vous réagirez au référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. La campagne a débuté samedi. Deux camps s'affrontent. Les partisans du oui à la troisième réunion.